Ça va bien tout le monde?
Oui.
Gloire à Dieu. On va lire Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 15. Éphésiens 3, 8 à 15. À cause de lui, à cause de Jésus, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non. Avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ à cause de la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Alors il peut y avoir une confusion quand on lit ce texte, on peut se dire, voilà, il veut gagner Christ. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'en faisant des choses, on gagne Christ, ça veut dire que on peut perdre Christ à cause justement du fait de faire des choses. Si on pense que c'est parce qu'on fait des choses, si on obéit à la loi, alors on peut perdre Christ, parce que Christ alors est mort en vain. Mais si on comprend mal ce texte, il a l'air de dire qu'il faut absolument qu'on gagne Christ. Vous voyez? C'est pourquoi il faut lire avec attention, faire vraiment. À cause de Jésus, je me suis laissé dépouiller de tout, c'est-à-dire de tout son. Il était quand même un rabbin, il était quelqu'un de très important, et il observait la loi, et il était un serviteur zélé. Je considère tout ça comme des ordures afin de gagner Christ. Second est très gentil, parce que le mot c'est pas ordure dans l'original, enfin l'original. Dans les vieux textes les plus anciens, c'est fumier. Voilà. C'était peut-être pire, mais bon, voilà. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, parce que notre propre justice, c'est parce qu'on obéit à la loi. Il dit, je veux pas être trouvé en train d'obéir à la loi, je veux pas être trouvé en Christ parce que j'ai obéi à la loi, ça c'est pas possible. Mais je vais trouver avec cette justice qui s'obtient par la foi en Christ. J'ai la foi que Jésus a mis sur mon compte sa justice. C'est la seule chose qui permette que je puisse être juste, que j'ai le capital de justice nécessaire pour pouvoir retourner au Père Céleste. Alors il dit, mais avec la justice qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. C'est-à-dire que cette justice nous est donnée par Dieu, mais elle est fondée sur notre foi. Si nous n'avons pas foi en cela, cette justice n'est rien. Elle ne nous est pas accordée. Hier, je faisais une réunion et j'expliquais aux gens que Dieu, quand il donne, il ne reprend pas. Mais encore faut-il prendre ce qu'il donne. Et alors, pour illustrer ce que je disais, j'ai enlevé ma montre et je l'ai offerte à un jeune homme qui était là, dans l'assistance. Et je lui dis, tu la veux? Il me dit, oui. Je lui dis, prends-la. Il l'a pris. Je lui dis, voilà, il a tout compris. Dieu aussi vous fait un cadeau, le salut. Mais maintenant, il faut le prendre. Et une fois que vous l'avez, vous l'avez. Et Dieu nous a créé à son image. Je disais ça aussi hier. Et nous avons un petit dicton chez nous qui dit, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Dieu ne vous volera pas ce qu'il vous a donné. Voilà, c'est clair. On peut pas être plus clair. Et puis le garçon était content d'avoir sa montre. Et puis, c'est bien. On est content d'avoir le salut en Jésus-Christ. C'est immérité, c'est un cadeau. Ça nous tombe dessus comme ça, c'est magnifique. Ainsi, c'est-à-dire de cette manière-là, en recevant la justice de Dieu, parce que j'ai la foi en lui, ainsi, de cette manière-là, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Et je suis d'accord de souffrir pour lui. Je suis d'accord de souffrir pour lui. Je suis d'accord d'aller jusqu'au bout pour lui, d'être en communion avec ses souffrances, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus s'est emparé. Jésus s'est emparé de moi, et moi je m'emparais de Jésus, je veux qu'il y ait une communion. Et alors il dit, je fais des efforts pour me perfectionner, je cours pour tâcher de m'emparer de cette perfection. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste. L'appel céleste a été donné, il a reçu cet appel, il court pour arriver au but, non pas pour pouvoir entrer grâce à ses efforts dans le royaume de Dieu, mais pour pouvoir arriver avec des bras chargés de gerbes, pour pouvoir dire à Dieu, voilà, j'ai souffert pour toi, j'ai fait beaucoup de choses pour toi, et le Seigneur dira, c'est bien, entre, bon et fidèle serviteur, et puis il lui donnera des récompenses. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça va avec tout le reste de ce qu'il dit. Nous tous, donc, nous sommes, qui sommes mûrs, j'espère que vous êtes mûrs, je sais que ceux qui m'écoutent ici le sont, mais maintenant je connais pas tous les gens qui m'écoutent sur Internet. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Il faut adopter cette attitude. Il faut l'adopter. Et si vous êtes d'un autre avis sur un point, Dieu vous éclairera là-dessus aussi. Il se débarrasse là-dessus. Ça a l'air de dire, j'en ai marre de vous expliquer. Et si vous êtes d'un autre point, ben, maintenant que Dieu vous éclaire, et puis c'est marre, quoi. Il devait en avoir assez, lui aussi, de toujours être confronté à ces gens qui sont là en train de vouloir gagner leur salut par leurs œuvres et tout. C'est une déviation du message de Christ. C'est quelque chose de terrible. Et ça, on le rencontre toute notre vie en tant que serviteur de Dieu. On rencontre sans arrêt des gens qui sont dans cette position et qui savent, ils disent, oui, Jésus est mort à ma place, mais quand même, il faut que, bon. Alors, arrêtez de vous torturer, cessez de courir après l'image idéale qui n'existe pas dans la vraie vie. Il n'y a que Jésus qui a été parfait, vous ne le serez jamais sur cette terre. On marche ou on court, il y en a qui marchent, il y en a qui courent, mais vers l'imperfection, comme l'apôtre Paul. On n'a pas atteint le but, vous ne pouvez pas dire que vous avez atteint le but, je ne peux pas dire que j'ai atteint le but. Et puis si vous m'accusez en disant, oui, tu n'as pas atteint le but, ben vous êtes des belles nouilles. Parce que vous non plus, vous n'avez pas atteint le but. Camilla, elle me disait, tu vois, quand tu juges quelqu'un, tu pointes ton doigt sur quelqu'un, tu en as trois dessous qui te pointent, qui te visent. Donc quand tu juges quelqu'un, tu es jugé trois fois plus. Et paf, on s'en dans ta tronche. Camilla, elle disait ça, elle avait raison. C'est des choses toutes simples, mais après ça reste gravé, vous voyez, ça fait plus de 30 ans qu'elle l'a dit, ça fait 40 ans qu'elle me l'a dit, ben, j'ai pas oublié. C'est des petites choses toutes simples qui restent. Ça n'existe pas dans la vie. Il n'y a que Jésus qui a été parfait. Nous, ben, on se débrouille, on marche, on court, on fait ce qu'on peut pour atteindre cette perfection, mais c'est pas parce qu'on va être, on va l'avoir atteint qu'on va être sauvé. On est déjà sauvé, mais on veut être parfait par amour pour Dieu. Et puis aussi par respect pour nous-mêmes. Et puis aussi pour amour pour les autres. Même Paul disait, j'ai pas atteint encore. Et il était sincère. Et je suis sûr que quand les Corinthiens ont reçu cette lettre où il disait, j'ai pas encore atteint la perfection, il y en a quelques-uns qui ont dit, ça on le sait bien, hein. Parce qu'ils le connaissaient. Ils le connaissaient. Comme ceux qui disent, ouais, j'entends, il peut dire ce qu'il veut, on le connaît. Ben oui. Et alors? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Vous êtes sur votre chemin en train de courir, je suis sur le mur en train de courir. Arrêtez de me mettre des pattes, de me faire des croche-pattes. Des croche-pieds, on dit. En Suisse, on dit des croche-pattes. Faites confiance à Jésus, qui est la source de la vie. Il est la source, et nous, on est en train de remonter jusqu'à la source. Un peu comme les saumons qui remontent, n'est-ce pas? Alors, des fois, c'est pas facile, parce que le torrent, la source, c'est Jésus, on remonte vers la source. Alors, ne faites pas partie de ce collège, de ce cortège de clones. Je pourrais même dire de clowns, mais le vrai mot, c'est clone. C'est-à-dire, vous savez, ces gens qui sont clonés, qui sont tous pareils. Pas clownés, hein. Clownés, j'aime beaucoup le petit café clowné. Ne faites pas partie de ce cortège de clones, de gens qui sont formatés dans les églises et qui sont enfermés dans leur mal-être. Ne faites pas partie de ce cortège. Ils souffrent et ils n'osent même pas l'avouer. C'est terrible. Ils perçoivent leur souffrance comme une faiblesse. Mais c'est pas vrai. La Bible dit que nous sommes un peuple de rois sacrificateurs. Pas des clones, qui ont maquillé leur tristesse avec un masque de fausse joie. Alléluia! Vous connaissez ça? Et les gens, Alléluia, Alléluia, puis vous sortez du culte, ça va. Oh frère, encore, vas-y, là, là. Maquillage, ça ne tient pas longtemps, hein. Arrêtez-vous si vous marchez dans ce cortège de clones. Arrêtez-vous. Écoutez-vous. Entrez en rapport avec vous-même. Comme l'a fait le fils prodigue. Le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Mais il a vu clair, il s'est rendu compte. Dites non à cette vie de clone et de clown. Dites non, je veux plus. Je veux plus. Arrêtez de succomber à l'appel des mauvais esprits qui vous poussent à vous comparer aux autres tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est terrible ça. C'est terrible. Il est plus beau. Il est plus intelligent. Elle est plus belle. Elle est moins grosse. Il a de la chance. Elle est plus douée que moi. Et alors? Et alors? Bon. Il y a des choses qu'on peut corriger. On peut arranger. On peut s'améliorer. De voir quelqu'un qui est beau, on peut se dire, bon ben, ah oui, tiens quand même. Et puis on peut faire quelque chose pour améliorer. Mais dire, oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, hein, moi, qu'est-ce que je suis moche. Ça sert à rien du tout. C'est pas constructible. Tif, pardon. La plupart des gens se comparent aux gens qu'ils connaissent, déjà premièrement. Et puis, de nos jours, grâce à l'imprimerie, on peut se comparer, n'est-ce pas, aux gens qu'on voit sur les magazines, sur papier glacé, qui ont été retouchés par Photoshop, qui sont magnifiques. Quand vous les voyez en vrai, moi je les vois en vrai parce que, moi vous savez bien que je suis charnel de temps en temps avec mon épouse, on va aller les frères et sœurs, on va voir des spectacles. Et quand on les voit en vrai, ben on voit que c'est des vieilles peaux comme nous, hein, enfin comme moi je veux dire. Sur les magazines, ils sont magnifiques, ces bonnes femmes, ces bonhommes, ils sont superbes dans la vraie vie, ils sont pareils que tout le monde, pareils que tout le monde. En ce moment, on nous parle de l'héritage laissé par Johnny Hallyday. Ça refroidit, hein? Ça refroidit, ça fait drôle. Tous ces gens que vous voyez qui sourient dans les magazines, qui sont beaux, qui ont l'air riches et tout ça, ils sont retouchés, arrangés, ils sont pas vrais. 10 millions de dettes, il a Johnny Hallyday. Mais comment on fait pour avoir 10 millions de dettes? Mais enfin bon, il a bien réussi, hein? Non, ça me fait pas. Il faut pas se comparer aux autres. Quand on voit quelqu'un qui est un petit peu mieux, ça peut nous inspirer, mais ça ne doit pas nous décourager. Ces gens-là ne nous correspondent pas. Leur image de réussite, de beauté, de bonheur ne nous donne pas des modèles réels. C'est virtuel, c'est pas vrai. Si vous les rencontrez, comme je vous disais tout à l'heure, dans la rue, c'est des monsieur, madame, tout le monde. Moi qui aime beaucoup Sylvie Vartan, un jour on se promenait avenue de la Grande Armée, elle a passé à côté de moi, j'ai même pas vu. C'est ma femme qui me dit, regarde, c'est Sylvie Vartan. Ah, j'ai dit, ah oui, ah. Elle était sur un vélo, puis un bonhomme qui a passé devant, puis elle a fait. Alors après je dis à tout le monde, mais il n'y a personne qui fait aussi bien qu'elle. Faut bien rigoler, hein, faut bien rigoler. J'aurais pas vu si Michou m'avait pas dit, ah regarde, c'est Sylvie. Et pourtant je l'aime beaucoup. C'est madame tout le monde dans la rue, hein, avec son jogging, c'était pas les paillettes, mais le rock'n'roll et tout ça. Hein. Moi, je veux pas ressembler à tout le monde. Moi, je veux pas être comme tout le monde. Un disciple de Jésus, il est pas comme tout le monde. Il est au-dessus de la norme. Un disciple de Jésus, la Bible nous dit, il est la lumière. La lumière, elle est là, elle est au plafond. Bon, c'est vrai, il y a une petite bougie, mais ça, c'est juste pour le symbole, parce qu'elle éclaire pas grand-chose. Mais nous sommes des lumières, et les lumières, on les met en haut. Moi, je veux être en haut. La Bible dit, tu seras la tête et non la queue, tu seras en haut et pas en bas. Mais il y a plein de gens, ils sont toujours en bas, et ils disent, ah, l'Éternel a dit que je serai en haut.
Bientôt.
Mais non, vas-y en haut. Place-toi. Place-toi toi-même. Redresse ta tête et ton cœur. Oh. Les stars, on dit, les stars. Pour ceux qui savent l'anglais comme moi, vous ne savez peut-être pas, mais les stars, ça veut dire les étoiles. Eh bien, ces étoiles, ces grandes stars que vous voyez dans les magazines, ils ont des lumières, mais des lumières qui viennent d'en bas. Les flammes de l'enfer. Ça vient d'en bas. C'est pas des bonnes lumières. Vous savez, il y a plusieurs façons de briller avec la lumière d'en bas. Il y a certains qui deviennent agressifs. Il y en a qui deviennent arrogants, provocateurs. D'autres sont toujours sur la défensive. D'autres sont toujours sur le point d'exploser, soit en larmes, soit en colère. Et tout ça pour quelle raison? Mais parce qu'ils se sentent coupables d'imperfection. Ils se sentent coupables d'imperfection. Un disciple de Jésus est parfait par la foi. C'est ce que Paul dit. C'est ce qu'on vient de lire. Est-ce que vous lisez votre Bible? Un disciple de Jésus est parfait par la foi. Un disciple de Jésus se sait parfait aux yeux du Père Céleste. Dieu vous voit au travers du sang de Jésus. Et vous, vous allez... Et puis vous dites, « Oh mon Dieu, regarde comment je suis, regarde comme je suis bête, regarde comme je suis mauvais, regarde, c'est pas possible. » Et Dieu dit, « Ah bon, t'es comme ça? Moi, je te vois pas comme ça. » Et puis au bout d'un moment, il en a marre, il écoute même plus. Il coupe le son. Parce qu'il en a marre de vous entendre chindre et vous plaindre et rouspéter après vous-même. Aimez-vous comme il vous aime. Comment est-ce que vous vous regardez? Moi, je vous regarde comme quelqu'un qui va de l'avant sans s'occuper du passé. Je ne suis plus le même, je ne suis plus la même personne. Jésus a fait de moi une nouvelle créature, je suis une nouvelle créature, je le crois. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles, je le crois. Et des moments où je suis un peu empêtré avec cette nouvelle nature parce que je ne sais pas comment tout fonctionne. Enfin, maintenant, au bout de 50 ans, quand même, ça va... Au bout de 50 ans, ça commence à venir. Mais au début, j'étais embêté. Et puis, encore aujourd'hui, il y a certains points où heureusement, j'ai le mode d'emploi. La Bible, c'est le mode d'emploi. C'est pas une histoire, c'est pas un bouquin qui vous fait la morale. C'est un mode d'emploi de vie. Alors, j'apprends comment je dois fonctionner au mieux. Et la Bible m'apprend que c'est en aimant. En aimant Dieu et en aimant les autres, comme je m'aime moi-même. Il dit, ça c'est tout, c'est le résumé de tout ce qui est là-dedans. Et quand il m'arrive de faire une erreur, le mode d'emploi, la Bible m'explique comment corriger et comment ne plus refaire. Et puis si je refais encore, le mode d'emploi me dit comment il faut. Comme le mode d'emploi de ce sacré machin qu'on a là, qui nous sert de relais, wifi, machin, on a perdu le mode d'emploi dedans. Non, mais on sait comment ça fonctionne, ça va. Ne perdez pas votre mode d'emploi. Ayez toujours votre mode d'emploi à disposition, votre Bible. Non, jamais, non, jamais, je n'oublierai ma Bible. Non, jamais, non, jamais, je ne la délaisserai. Ça, c'est un petit cœur qu'on chantait chez les Molenda. Ça fera... Il y a d'autres chansons, hein, en parlant de chansons. On entend en ce moment, vous ouvrez la radio, on entend parler beaucoup de Claude François parce que ça va faire 40 ans qu'il est décédé. Ça, c'est le 11 mars. Dans notre famille, on se rappelle de la mort de Claude François le 11 mars parce que c'est l'anniversaire de Michou. Et chaque fois que c'est l'anniversaire de Michou, on dit « Ah bon, tu te rappelles, Claude François est mort le 11 mars. » C'est pas que Claude François était notre idole, mais quand on était jeune, c'était quand même quelqu'un qui était important en France. Et puis, ce qu'il faisait, c'était net, clair, impeccable. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, il a laissé beaucoup de chansons. Et comme l'autre jour, ils étaient en train de parler de lui, ils ont passé une chanson qui s'appelle « Le jouet extraordinaire ». Vous connaissez cette chanson? Alors, c'est un jour que j'étais très gentil. Mon père me rapporta un jouet extraordinaire, alors que j'ai pris dans mes bras. Et quand je l'ai posé par terre... Ça faisait zic, quand ça roulait, paf, quand ça tournait, brrr, quand il marchait, je ne sais pas ce que c'était, je crois que je ne saurais jamais. Voilà, ça c'était la chanson, le jouet extraordinaire. Ça c'est Claude François. Mais moi, je découvre ce que je suis. Il n'a jamais trouvé ce que c'était que ce jouet extraordinaire, mais moi je sais ce que je suis. Je sais le jouet extraordinaire que je suis. Je sais quel jeu je dois jouer. Je sais qui je suis. et je sais que je serai encore plus parfaitement le jour de la résurrection, quand je serai véritablement manifesté sans ce corps de chair qui m'embête, qui me limite. Je découvre ce que je suis, cette nouvelle créature extraordinaire, et comme je vous le disais, si je fais une erreur, je suis pardonné, je le sais parce que je l'ai lu dans le mode d'emploi, j'ai pas besoin de le sentir, j'ai qu'à le croire. Croyez. Dieu l'a dit une fois, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de répéter tout le temps. Il n'a pas besoin de vous confirmer par la paix que vous êtes pardonné. Beaucoup de gens disent « Oh, je ne sens pas encore la paix de mon salut, Dieu ne m'a pas encore... » Quoi ? Mais c'est quoi cette espèce de religion à deux balles ? Jésus vous a pardonné il y a 2000 ans, il a dit que si vous péchez, vous confessez votre péché, il est fidèle et juste pour vous pardonner, vous purifier de tout péché, et vous vous attendez de sentir qu'il vous a pardonné ? Mais c'est débile ! C'est une insulte à Dieu ! Faut pas faire ça. Il faut croire qu'il vous a pardonné, parce qu'il l'a dit. Une fois, ça suffit, mais il ne le dit pas qu'une fois, il le dit plein de fois. Mais déjà, rien qu'une fois, il dirait qu'une fois, ça suffirait. Il faut le croire. Et puis, il faut le croire pour pas dire, pour pas tomber malade, parce que beaucoup de gens tombent malades à cause de la culpabilité, parce qu'ils ne se pardonnent pas. Parce que c'est ça la vérité. C'est pas qu'ils croient pas que Dieu les pardonne, c'est qu'ils ne se pardonnent pas. Alors, ils s'en veulent toujours et ils voudraient avoir la paix. Foutez-vous la paix, vous-même. Arrêtez de vous tourmenter, arrêtez, mais arrêtez. Ça veut pas dire que vous devez oublier les bêtises que vous avez faites. Oh, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est pas non plus nier ce que vous avez fait. Ce qui est vital, mes frères et sœurs, c'est de comprendre, de prendre conscience de nos erreurs passées, de les reconnaître, afin, pour pouvoir les surmonter et pour pouvoir tourner la page. Vous ne pourrez pas déchirer la page. Ce que vous avez fait, c'est fait. Mais vous pouvez tourner la page. Se pardonner, c'est pas essayer de se convaincre que ce qu'on a fait, c'est pas grave. C'est pas ça. Il faut se pardonner selon le mode d'emploi. Le fil bleu avec le fil rouge avec le fil vert. Vous vous rappelez ? Chef, j'ai glissé. Ne faites pas n'importe comment, faites selon le mode d'emploi. Croyez le mode d'emploi, agissez en conséquence. Pas avec vos raisonnements intellectuels. Ah, moi je pense que peut-être si que... Non ! Le mode d'emploi. Pour me pardonner moi-même, je dois avoir le courage d'affronter mes imperfections. C'est du courage. D'affronter ma vulnérabilité. Il faut du courage. Les reconnaître, en parler à Dieu. Vous vous en voulez de toutes vos tripes pour le mal que vous avez fait. Il faut que vous vous pardonniez de toutes vos tripes. Égal. Pourquoi je vous dis tout ça ? Parce que beaucoup de chrétiens ont d'immenses blessures, ils vont à l'église et ils sont là devant des pasteurs gominés qui pensent à la légère les blessures du peuple. Il ne faut pas faire un boulot d'amateur comme ça. Se pardonner, c'est un processus. C'est un processus, ça peut prendre du temps. C'est un processus qui vous conduit à accepter d'être encore un humain. Bien sûr, vous êtes une nouvelle créature, mais vous êtes quand même encore un humain. Vous êtes un être fragile. Vous êtes un être qui a besoin de se perfectionner. Même le grand apôtre Paul savait ça, il le croyait. Oui, j'ai besoin de perfectionnement, j'ai pas encore atteint le but. Mais il disait pas « Oh, alors que je suis bête !» Il ne s'appelait pas la tête contre les murs. De toute façon, les bêtises que vous faites, les péchés, tout ça, ça a été fait, c'est fait. Voilà, on ne peut rien y changer, c'est fait. On ne peut pas remonter le temps, c'est fait, voilà, c'est fait. Mais ne vous enlisez pas dans le marécage des regrets. Hier, nous étions au cimetière, nous avons emporté un ami en terre, Et je regardais les tombes, regrets, regrets, des regrets, des regrets. Bien sûr. Ne vous enlisez pas dans le marécage des regrets. Reconstruisez au lieu de vous empoisonner la vie avec des regrets. Apaisez-vous vous-même, vous ne serez jamais parfait, vous referez des bêtises. C'est le signe initial de votre nature humaine. J'aime bien dire le signe initial. C'est un terme très pentecôtiste, ça. Par contre, arrêtez de vous ranger. Autorisez-vous à être ce que vous êtes. Avec vos défauts, avec vos qualités. On a autant de défauts que de qualités. Alors, vous vous rendez compte le nombre de défauts que j'ai avec toutes les qualités. Michel, t'es orgueilleux. Vous ne pouvez pas progresser sur le chemin de la progression si vous ne vous aimez pas, si vous ne vous pardonnez pas, si vous ne vous connaissez pas, si vous ne connaissez pas vos limites, si vous ne connaissez pas vos qualités et vos défauts, et si vous n'êtes pas en train de travailler sur vos défauts avec une foi positive en Jésus-Christ qui vous a déjà pardonné et qui n'est pas fâché contre vous. Pourquoi vous êtes fâché contre vous? Jésus lui-même n'est pas fâché contre vous. Il faut radicalement que vous transformiez le rapport que vous avez avec vous-même. Avec vous-même. Faites-vous confiance pour avancer.
Ouais, la Bible dit « Malheur à l'homme qui met sa confiance dans l'homme ».
Mais vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des fils de roi, des fils de Dieu maintenant. Faites marcher cette nouvelle nature qui est en vous. Arrêtez d'être simplement des hommes ou des femmes. Jésus est avec vous, portant le joug avec vous, comprenant vos chagrins et vos douleurs et vos désillusions. C'est toi et moi, c'est la chanson aussi. Contre le monde entier, toi seul à mes côtés, comprenant mes faiblesses. Et ben voilà. Jésus vous comprend, il vous connaît, il sait. Il est votre bien-aimé. Il ne vous en veut pas. Même les bêtises que vos enfants font, c'est pas vos enfants font des bêtises, mais vous n'allez pas les haïr à cause des bêtises qu'ils font. Et méchants comme vous êtes, vous continuez à les aimer. Alors, pensez, Dieu qui vous a créé vous aime toujours. Il ne nous a pas rejetés. Pourquoi vous vous rejetez? Pourquoi vous vous mettez dans un trou? Pourquoi vous vous enlisez dans la culpabilité comme ça? Regardez-vous avec compassion comme Jésus vous regarde. Vous ne serez jamais l'idéal qu'on voit dans certaines séries de télévision. Vous ne serez jamais Monsieur Ingalls. Vous ne serez jamais Madame Ingalls, la femme parfaite, l'épouse parfaite. Ne soyez pas non plus toujours Madame Olson, pour ceux qui connaissent la petite maison dans la prairie. Vous ne correspondez à aucun modèle sinon Jésus. C'est le plus haut, c'est le plus grand, mais c'est le plus vrai. C'est le seul vrai modèle authentique. Et si ce modèle vous semble trop élevé, sachez que c'est un mensonge du diable. Ça n'est pas vrai, c'est pas trop élevé. Il a dit que vous pouvez le faire. Parce qu'il a dit que vous êtes de sa nature. Et que vous avez un marché de progrès en progrès. Il le sait. Il vous a fabriqué. Ce jouet extraordinaire que vous êtes, c'est lui qui l'a fabriqué. Ne vous laissez donc pas paralyser par la peur ou par l'impatience ou par le découragement, non. Jésus n'est pas en colère contre vous, pas du tout. Alors arrêtez d'être en colère contre vous, s'il vous plaît. Jésus disait, la paix soit avec vous. Il vous donne sa paix. Ne contrariez pas sa paix. Laissez-la s'installer en vous et puis allez la procurer ailleurs. Ah, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui portent de bonnes nouvelles, qui portent la paix, qui sont, voilà. Il y a des gens, quand on les voit arriver, on dit, oulala, Oh, j'ai pas quelque chose à faire là, il faudrait que je me taille. Puis d'autres ont dit, waouh, super, on va passer un bon moment. Il faut que vous soyez de cette sorte de personne. Quand vous arrivez quelque part, c'est bonnard, comme on dit en Suisse. On aime bien être avec vous parce que vous n'êtes pas un vieux ronchon. Laissez la paix s'installer en vous, puis ensuite, eh bien, vous pourrez procurer la paix. Les gens ont tellement besoin de paix. Qu'est-ce que Jésus veut que nous prêchions ? La bonne nouvelle, l'évangile, d'accord ? Mais qu'est-ce que Jésus veut que nous vivions ? Eh bien, la paix que donne cette bonne nouvelle. C'est quand même pas compliqué. C'est dans le mode d'emploi. Ne gâchez pas votre vie en vous faisant des reproches, parce que quand vous faites ça, vous oubliez la grâce. Vous oubliez la grâce. Progressez, sortez du troupeau des clones et des clowns qui se complaisent, n'est-ce pas, dans une fausse joie religieuse. Et puis qui en fait ont un petit côté vicieux parce qu'ils aiment bien qu'on les plaigne. En plus, Jésus a dit, je vous donne ma paix, prenez-la. Comme le garçon hier a pris la montre. Prenez-la, cette paix qu'il vous donne. Mais comment faut faire ? Mais déjà, premièrement, tu éteins ta radio, tu n'écoutes plus Claude François. Tu éteins ta radio, tu poses ton bouquin, tu restes assis sur ton fauteuil, ou allongé sur le sol, ou sur ton... Bah, peu importe, mais ne fais rien. C'est quand tu fais rien que tu fais beaucoup de choses. Ne fais rien. Tiens, reste comme ça 10 minutes. Tu vas avoir un de ces fourbis dans ta tête de penser de tout machin. Le lendemain, tu refais. Le surlendemain, tu refais. Au bout d'un moment, tu vas voir que tes pensées, elles vont se... Parce que tu les écoutes pas. Méprise. Tu laisses passer. Au bout d'un moment, ces pensées agitées, elles vont s'arrêter. Parce que le meilleur moyen, c'est de ne rien faire. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux t'opposer, t'es foutu, t'es perdu. Il ne faut pas. Fais confiance à Jésus, ne fais rien, laisse-le faire. Frère Osborne disait une chose, il disait, quand le diable vient frapper à ma porte, je dis, attends, il dit, Jésus. Vous avez compris ? Et lui, il faisait rien. Il restait tranquille. Et quand Jésus ouvrait la porte, le diable lui fiche le camp. Hein. Jésus est en vous. Laissez Jésus s'occuper de toutes ces choses-là. De la paix, il y en a pour tout le monde. N'ayez pas peur d'en prendre de trop. Il y en a pour tout le monde. Ne vous gênez pas. Si les autres n'en veulent pas, prenez-en, servez-vous. Puis ensuite, allez la distribuer à ceux qui n'en veulent pas de Jésus. Ils la voudront peut-être bien de vous. Ils en ont tellement besoin. Une fois qu'ils auront écouté vos paroles et qu'ils vous diront « Ah, oh, ce que tu m'as dit m'a fait du bien », tu leur dis « Je l'ai pris dans la Bible, dans le mode d'emploi. » « Ah bon ?» Parce que les gens ignorent la plupart du temps ce que la Bible dit. Alors vivez en paix avec Dieu, avec vous-même, avec les autres, dans la mesure du possible. Parce que c'est sûr qu'il y en a qui ne veulent pas la paix. Alors ceux-là, on se tire, on met 650 km entre eux et nous et on vit tranquille. Mais dans la mesure du possible, soyez en paix avec tout le monde. Et que Dieu vous garde sur le chemin de cette paix. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. Veuillez bénir mes frères et sœurs. Je sais que ce message ne s'adresse pas à tout le monde ce matin. Il y en a qui ont déjà compris depuis longtemps ces choses. Mais je sais qu'il y en a tellement encore qui souffrent. Et je te prie que tu permettes que ces gens qui ont écouté ça puissent être bénis. Et je te demande qu'ils aient aussi l'intelligence et la gentillesse de faire écouter ce message à des gens qui sont tourmentés par leur propre culpabilité. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. Dieu vous bénisse.